Bonjour à tous à ce dernier podcast de la vie symbolique. Ceci est juste un petit message avant que le podcast lui-même commence pour vous dire qu'au début, on a eu des problèmes de son. Alors, c'est quand même possible de nous entendre, c'est juste que David et moi n'avons pas exactement le même son que Jonathan. Je laisse quand même cette partie-là du vidéo parce que c'est justement possible de nous entendre. Mais on s'en rend compte plus tard, des gens qui nous le disent dans le chat, et le problème est réglé autour de 18 minutes. Fait que si vous voulez commencer juste par là, vous pouvez aussi skipper. Merci beaucoup, bon épisode.
Alors, salut tout le monde. Il n'y a personne en ce moment, probablement, parce qu'on vient juste de poster l'information sur les réseaux. Mais ceux qui vont le regarder après, bonjour à tout le monde.
C'est notre premier épisode de questions-réponses de la vie symbolique avec Jonathan Pajot, David Brodeur et Jean-Pierre Morceau aujourd'hui. Au dernier épisode, on avait mentionné que les gens pouvaient acheter des commentaires aux vidéos, où j'ai aussi posté un petit commentaire sur la chaîne hier pour que les gens commentent aussi. Donc, on a créé une petite banque de questions et on va essayer de répondre à ça aujourd'hui. C'est aussi notre première tentative de diffuser ça live. Là, fait que là, maintenant qu'on voit que la logique fonctionne, on va planifier plus en profondeur les prochaines fois. Là, annoncer ça plus à l'avance, mais au moins, on voit que ça fonctionne au niveau de la mécanique. Fait que sans plus attendre, on va pouvoir y aller avec les questions. Il y avait une couple de questions qui étaient ressorties dont on aurait peut-être dû se douter. Avec Jonathan, même si on a fait plusieurs épisodes, on n'a jamais pris le temps de parler de la distinction entre orthodoxie, catholicisme, puis pourquoi est-ce qu'on est d'un bord ou d'autre. Puis ça va peut-être permettre de parler, disons, pourquoi on est arrivé, où on est arrivé, puis pourquoi on n'en parle pas nécessairement trop souvent dans la chaîne. Fait que, je sais pas, Jonathan, toi, si tu as envie d'attaquer à ces questions-là pour commencer.
OK. Ben moi, je ne suis pas né catholique aussi. Tu sais, par rapport à la majorité des Québécois, c'est peut-être une exception aussi. Je n'étais pas baptisé comme enfant. Je n'ai pas fait toutes les choses, pas de première communion, pas de confirmation, tout ça. Fait que j'ai grandi dans une famille protestante, évangélique. Puis quand je suis arrivé dans la vingtaine, c'est là que j'ai eu un peu comme une sorte de crise spirituelle, intellectuelle et tout. Puis j'ai honnêtement, au début, je me suis intéressé au catholicisme, mais j'avais l'impression que l'Église catholique, en tout cas au Québec, s'en allait vers le protestantisme dans sa structure, dans sa façon de faire, un peu dans sa tendance. Fait que, tu sais, je me demandais pourquoi je sortirais d'un bateau pour aller dans un autre qui s'en vient dans ma direction. Là, tu sais, ça ne me semblait pas totalement logique. Je me suis intéressé un peu au catholicisme traditionnel, la messe latine et tout, la fraternité de Saint-Pierre. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. J'ai écrit à un prêtre, il m'a répondu un mois plus tard, puis il m'a dit ben, on n'a pas de liturgie dans ta région, tu sais. Fait que c'était comme pas vraiment logique. Puis là, quand j'ai découvert l'iconographie, puis les textes des pères d'Église, la mystique de l'Église, la liturgie orthodoxe et tout, tu sais, j'ai finalement trouvé que c'était vraiment quelque chose qui était le plus plein, disons, au niveau de ce que ça pouvait présenter comme cosmologie, comme tout ça était plus présent selon moi. Je continue de penser que c'est encore présent de façon implicite dans l'Église catholique, mais il y aurait beaucoup de travail à faire pour comme faire ressortir, disons, ces éléments-là. Tandis que, tu sais, comme par exemple, tu sais, j'ai parlé de déification sur ma chaîne, puis là, il y a certains catholiques qui sont venus et m'ont dit « Ouais, mais ça existe aussi la déification dans l'Église catholique, mais tu sais, disons que ça existe peut-être, mais c'est pas quelque chose qui fait vraiment comme partie de la façon de penser des gens et tout. » Tandis que dans l'Église orthodoxe, c'est vraiment un peu la façon de penser. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ça, finalement, quand j'ai découvert l'Église orthodoxe, puis toute la richesse, c'était pour moi, c'était plus une question, le rendu là.
Bon. Je peux parler un peu de mon côté aussi, puis après, si tu as eu, présenter un petit peu. Parce que j'avais été vu dans une famille catholique quand j'étais petit, comme plein de gens, je s'éloignais vers l'adolescence. Puis, j'ai commencé à revenir. Au moment où Jonathan commençait à être connu, où Jordan commençait à être connu aussi. J'ai étudié en philo, disons du côté métaphysique assez abstrait. Puis, quand Jonathan était tombé sur Patreon, j'avais commencé à le supporter parce que je suivais déjà un peu les trucs que tu faisais. Là. Puis là, on a eu quelques conversations au téléphone. Ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait recommandé, entre autres, de lire des trucs de Saint-Maxime le Confesseur. Puis, évidemment, un peu à cause de ça, je m'attendais à devenir orthodoxe. J'avais recommencé à aller à l'église catholique parce que je pouvais tout de suite commencer à le pratiquer. C'est mieux que juste de rester chez toi, chez soi, puis écouter des trucs sur Internet. Fait que je vais être capable de commencer tout de suite à pratiquer. Puis, éventuellement, comme en même temps que je continuais à lire, je continuais à parler à Jonathan de temps en temps, ben, j'ai tombé sur une super bonne paroisse à Québec. Puis c'est un peu ça qui a fini que je me suis arrêté là, puis je me suis bien pas posé trop de questions pour faire son amour aux autres, parce que comme si je voyais que des réponses que j'étais capable de trouver dans l'introduction en parlant à Jonathan, j'ai trouvé aussi avec des jeunes autour de moi, la paroisse de l'exogie était très belle, était très riche, il y avait beaucoup de gens avec qui je pouvais tout de suite commencer à m'impliquer, parce que c'était pas le genre d'expérience que Jonathan avait eu lui à l'époque quand il s'était intéressé. Moi, ça avait été pas très long avant que je trouve un endroit où je pouvais tisser des liens avec beaucoup de gens. Puis aussi, c'est, je pouvais aller là avec des gens dans ma famille aussi. Je ne sais pas, comme le seul catholique dans le milieu. Ça n'a pas été long, je me suis trouvé des amis, puis éventuellement même une femme à marier dans ce milieu-là. Fait que là, aujourd'hui,
c'est quand même pas si fait.
Dans un milieu où, quand je vais à la messe le dimanche, par exemple, tu sais, je suis avec mon épouse, souvent on a des membres de notre famille qui sont pas loin, plein d'amis autour, dans une liturgie qui est belle. Fait que, à un moment donné, je me pose pas trop de questions. Quand j'ai des grosses questions de nature intellectuelle, ce qui se passe aussi, c'est que si je trouve des grosses pointures dans la tradition qui répondent aux questions que j'ai, puis à un moment donné, ça devient vraiment difficile pour moi d'évaluer. À un moment donné, je reconnais qu'il y a des questions qui sont un peu au-dessus de comme mon niveau pour l'instant. Je suis pas un évêque, là, fait que je n'aurais pas passé tout mon temps sur des grosses questions ecclésiales. Le but, c'est quand même d'essayer de devenir saint dans tout ça. Fait que, si je vois que je suis à un endroit où je grandis, je me sanctifie, dans, c'est le langage qu'on a toujours de parler de déification, on va parler de sanctification. C'est sûr que ça a des connotations différentes. Hein. Parce que je suis capable de voir que je grandis bien dans ce milieu-là. Il y a des gens, je me rappelle quand j'avais lu, par exemple, la première fois que j'avais lu un livre de Cardinal Ratzinger, où c'est tellement brillant que je me disais, ben, c'est correct, là, j'ai plus besoin de faire de philo, là. Cet homme-là, il a répondu à tout. Des trucs comme ça qui arrivent, et tu sais, je sais que je pourrais lire des gens dans la tradition orthodoxe qui seraient très brillants et qui me feraient pencher vers eux aussi. Fait que, tu sais, j'essaie de pas trop m'éloigner dans les nuages. Il y a beaucoup de gens que je vois faire ça en ligne, par exemple, là, des gens qui vont, tu sais, au lieu d'être très impliqués dans une paroisse, ils vont passer beaucoup de temps en ligne, des fois avoir des gros débats comme apologétique avec plein de gens, puis je trouve qu'ils font. C'est pas nécessairement le genre de personne que je veux devenir. Là. Je vois des gens autour de moi, dans ma paroisse, qui sont plus proches de ce que je veux devenir. Fait que j'essaie de donc, pas trop m'éloigner dans les hautes sphères. C'est pour ça que j'ai fini par me poser et être vraiment bien dans la paroisse où je suis tombé. C'est un peu différent si je n'avais pas trouvé ma paroisse, mais j'ai finalement bien tombé là.
Et toi, David?
Dans le fond, c'est un peu un mélange de vous deux, en fait. Dans le sens où, est-ce que, comme Jean-Philippe, je suis né catholique. Mais je me suis vraiment beaucoup éloigné de ça. Dans un sens, jeune adulte, j'étais extrêmement athée, antichrétien, virulent, sur Internet même et tout. Mais à un moment donné, je suis tombé sur un truc de métaphysique chrétienne. Puis en même temps, j'ai lu Meister Eckhart, qui est un catholique. Ça m'a jeté à terre. Puis je me suis rendu compte que tout ce que je pensais du christianisme, en fait, c'était ma propre invention ou l'invention d'autres personnes, mais c'était loin d'être la réalité. Fait qu'à partir de là, je suis retourné dans le catholicisme, très pratiquant, j'allais à l'église, je faisais partie de la chorale, etc., etc. Puis je savais tout simplement pas que l'orthodoxie existait. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur l'orthodoxie, notamment par les études historiques et tout. Puis, plus que je creusais, en fait, dans mon catholicisme, plus que je me rendais compte que l'essence de ce qui venait me rejoindre, si on veut, dans le christianisme, c'était tout ce qu'il y avait dans l'orthodoxie de manière explicite. Dans le sens où est-ce que ce qu'il fallait que je creuse dans le catholicisme pour trouver, que ce soit certaines manières de voir l'ascétisme, de voir la nature humaine, etc., etc., c'était explicite dans l'orthodoxie, c'était au fondement même. Tu sais, c'était pas quelque chose de sur la frange ou à la limite de, puis il fallait regarder à gauche et à droite. Non, c'était ça qui était l'élément central. Puis moi, c'est ça qui m'a fait aller lentement, mais sûrement vers l'orthodoxie, commencer à aller à l'étude orthodoxe, je suis devenu catéchumène, etc., etc. Puis sans dire que je déteste le catholicisme ou quoi que ce soit, j'ai jamais été vraiment apologétique, anti-catholique. Reste que, pour moi, je me verrais pas autre chose qu'orthodoxe. Je verrais pas pourquoi je retournerais vers le catholicisme.
C'est bon, ça fait que ça répond à le premier genre de question.
Ouais.
Il y a quand même quelques questions qui tournaient autour de ça, puis on va peut-être revenir sur des aspects spécifiques un peu plus tard dans les questions-réponses aujourd'hui. Mais première question, sinon autre que ça, sur les vêtements de peau et la technologie. Et sur un des dernières vidéos qu'on avait fait, quelqu'un qui demandait, quelqu'un qui s'appelle Sans Rancune, en fait, le nom, la question était, peut-on dire que la spécialisation constitue en elle-même une manifestation de ce motif, pattern, au niveau de la personne vis-à-vis du groupe, l'individu sacrifiant en partie son universalité pour servir un but plus spécifique en se concentrant sur son obsession, en regardant vers le bas, deviendrait ainsi un mort tourné contre la mort, un vêtement de peau pour la politique. Où est-ce que j'étire le concept à un domaine inapproprié?
Non, je trouve que c'est vraiment une bonne intuition que tu as eue. C'est vraiment... C'est exactement le même sacrifice qui est fait dans le vêtement de peau. C'est le sacrifice qui est fait dans la spécialisation. C'est-à-dire, on augmente le pouvoir en augmentant la spécialisation. T'sais, on augmente la capacité, puis on réduit l'universalité, disons. Ou on relie, on se relie sur les autres pour arriver, disons, à quelque chose de plus élevé. Fait que c'est... Si c'est bien fait, ça peut vraiment devenir une sorte de totalité, là, tu sais, ou un peu comme l'idée, quand je parle de la Nouvelle Jérusalem, où tout est comme rempli puis s'en va vers dans la bonne direction. Mais ça crée un système qui est de plus en plus fragile. Puis, si le système il est trop spécialisé, si chaque élément du système est trop spécialisé, ben, à un moment donné, tu as juste besoin d'en enlever un, puis le système au complet tombe. T'sais, puis on peut le voir aujourd'hui, tu sais, dans notre... On a vu un peu pendant le temps de la COVID, avec le problème des chaînes d'approvisionnement, que nos chaînes d'approvisionnement sont tellement spécialisées et sont tellement complexes, puis chaque personne fait tellement juste des petits morceaux de toutes les choses qu'on achète, qu'il y a un problème comme la COVID, il y a un aspect de la chaîne d'approvisionnement qui est coupé, puis tout d'un coup, c'est le chaos total. Fait qu'en effet, la spécialisation, c'est vraiment un bon exemple, en fait, de comment voir les vêtements de peau sous un autre angle.
Si on regarde même dans la Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, Moïse donne, par exemple, autant l'autorité que le pouvoir à Moïse. Mais après Moïse, ça va se séparer, où est-ce qu'on va avoir des figures plus au niveau du pouvoir temporel, qui vont faire les conquêtes, je pense à Josué, tout ça. Et de l'autre côté, on va avoir la lignée des prêtres. Alors que Moïse lui-même avait les deux, ben, après lui, ça va les gens vont se spécialiser. Ça va continuer plus tard, même où est-ce que quand les Israéliens eux-mêmes vont demander d'avoir un roi, pour séparer encore une fois, si on veut, les pouvoirs et tout. Puis sans dire nécessairement que c'est bon en soi, reste que ça fait partie, si on veut, du plan de la providence de Dieu aussi, ce genre de spécialisation-là au niveau de la société.
Oui, puis c'est super intéressant, une façon de comprendre la spécialisation avec la notion des vêtements de peau, c'est de comprendre aussi comment que les manuscrits médiévaux étaient composés. Souvent, les gens ne réalisent pas que très souvent, par exemple, il y allait, si tu avais un manuscrit, tu allais avoir, par exemple, les écritures au centre ou peut-être un commentaire important au centre. Puis là, autour, tu allais avoir un deuxième commentaire ou, si c'est les écritures, le commentaire écrit autour de la Bible principale, du texte principal. Puis ça, par exemple, dans le Talmud, c'est amené à des niveaux incroyables où tu as la page au centre, tu as un commentaire, puis là, tu as plusieurs épaisseurs de commentaires. Plus que tu t'éloignes du centre de la page, tu as plusieurs, disons, tu as un commentaire, puis là, tu as un commentaire sur le commentaire, puis là, tu as un commentaire sur le commentaire sur le commentaire. Plus que tu t'éloignes, plus que tu vas dans le commentaire, plus que tu deviens spécifique, plus que c'est comme les petits détails, on s'en va dans toutes les arénas qui n'ont pas été comme... Ça devient de plus en plus explicite, mais c'est le danger aussi de se perdre dans le labyrinthe. Là, à un moment donné, si tu n'es plus capable de trouver ton chemin pour arriver au texte principal, ben, à un moment donné, tu as l'impression de juste brasser de la broue, là, ou tu ne sais même plus de quoi tu parles rendu là.
En relié à ça, il y avait aussi une question qui portait sur les ornements, parce qu'on n'avait pas parlé d'ornements dans cette vidéo-là sur les vêtements de peau, mais surtout, on le voit dans l'idée de la marge que tu viens de dire, là, en fait, les marges du spectre, là, où les ornements, c'est aussi un genre de vêtement de peau. Je pense qu'il y a même une partie, je pense que c'est dans la Genèse, c'est dans Enoch, où ça racontait que c'est les anges qui avaient donné la technologie aux humains, ils avaient y compris donné du maquillage et des choses justement pour s'ornementer. C'est une autre partie des vêtements de peau.
Il y a des gens qui disent qu'on n'entend pas Jean-Philippe. Ouais. Puis qu'on n'entend pas bien, qu'on entend mieux que tout le monde.
Oui, j'ai essayé de monter mon son un peu, mais je ne sais pas si...
Je pense que de mon côté, Zoom a l'air de dire qu'il reçoit mon son... Mais je ne sais pas si j'entends pour faire quelque chose de
spécial. Moi, je peux peut-être baisser mon son, peut-être. Si jamais. Moi, je suis au bas de mon. Un petit peu. Je vais. Est-ce que c'est moins fort quand je fais ça? Pour vous?
Je ne suis pas capable de dire.
Est-ce que...
Bien, peut-être les gens dans le chat. Est-ce que là, quand j'ai changé mon volume, est-ce que c'est moins fort pour vous? C'est plus fort. Non, c'est plus fort. Ça sonne plus fort. Fait que là, ça veut dire que je m'étais trompé en fait. Que moi, j'ai mon gain au minimum, en fait. Ah, c'est peut-être l'OBS. Attends un petit peu. Donnez-moi 2 secondes, tout le monde. Désolé. Hey, c'est super, super amateur au maximum. Là. OK. Ça devrait aider. Est-ce que ça marche? Attends un petit peu. Est-ce que ça, c'est mieux, tout le monde?
Est-ce que vous entendez les gens?
Testez. On a besoin des gens dans la salle de vous nous dire si c'est mieux.
Test.
Personne ne répond. Peut-être qu'ils ne nous entendent plus du tout, en fait.
Ouais.
Non, en effet, ils ne nous entendent plus du tout, en fait. Parlez donc, les gars.
Est-ce que vous m'entendez si moi je parle?
OK, là, il devrait vous entendre.
Fait
que finalement, on pensait qu'on l'avait, qu'on avait maîtrisé notre affaire, mais on fait dur un peu. Fait que sérieux, là.
J'ai mis mon son au maximum. Est-ce que les gens m'entendent plus comme ça? Toujours la même chose, même dans le fond.
Ça marche pas. Les gens n'entendent pas.
Je sais pas, j'essaye de voir, mais j'ai vraiment l'impression que je suis proche du max si je suis pas au max. Je sais pas si.
Quand. OK. Fait que là, j'avoue. Là, ce que j'ai fait, ça se peut que le son il vient carrément de mes speakers. Genre que c'est vous dans mes speakers que les gens entendent.
Okay. Les gens disent que maintenant, ils entendent mieux David. Je sais pas s'ils m'entendent mieux si je parle moi aussi.
C'est si compliqué.
Maintenant, je suis complètement perdu. Ah, c'est peut-être parfait. Ça va de marcher.
OK, c'est bon. Je pense que parce que là, le son vient par mes speakers. J'ai monté mes speakers au max. Fait que c'est comme ça que ça va marcher. Malheureusement, c'est pas génial, mais c'est comme ça que ça va marcher. OK, désolé tout le monde. On revient à nos questions. Là.
C'est bon. OK. C'est mieux qu'on règle ça au début quand même.
Oui, il va falloir trouver une meilleure solution pour la prochaine fois parce que c'est pas génial comme solution.
Ouais. Je vais investiguer ça. Donc, la prochaine question qu'on avait, il va falloir réécouter plus tard. Là, si je vois que c'était trop mauvais pour les premières questions, on va peut-être comme les traiter dans un prochain. Mais pour là, je pense qu'on va juste continuer. La prochaine question, c'était sur des légendes de Sainte-Anne en Bretagne. C'était Stéphane Garneau qui avait commenté. Certains récits prétendent que Sainte-Anne, qui a enfanté la Mère de Dieu, était origine du pays. D'autres qu'elle était d'origine juive, mais avait fini par venir s'installer dans la baie de Douarnenez, où l'on retrouve les légendes de la submersion de la ville 10, de Tristan et Iseult, etc. Je pense que David avait regardé un petit peu ces légendes-là.
Oui, honnêtement, je connais beaucoup Sainte-Anne parce que c'est une sainte qui est très proche de ma famille. Puis je connaissais rien de ça. Puis j'ai fait des recherches. Puis il a fallu que je recherche vraiment creux pour trouver en fait c'était quoi. Mais j'ai compris un peu plus. Dans le fond, je vais juste raconter rapidement la vie de Sainte-Anne pour que les gens comprennent aussi de où est-ce que ça vient et tout. Mais Sainte-Anne était mariée là, à Joachim, Saint Joachim, qui est un des. On dit dans l'orthodoxie que c'est les ancêtres de Dieu et tout. Puis dans le fond, pendant très longtemps, ils ont été infertiles jusqu'à un certain moment. Là, je raconte l'histoire vite, mais certains moments un peu comme Abraham. Puis sa femme vont demander justement à Dieu d'exaucer leur prière, puis de régler cette infertilité-là. Puis de cette union-là va venir justement Marie, qui va être dédiée au temple à 3 ans, et ainsi de suite. Mais après ça, dans le fond, selon cette légende-là, puis je vais revenir à l'origine après, mais selon cette légende-là, une fois que Joachim meurt, elle s'en va ailleurs. Ou à l'inverse, c'est qu'avant d'être mariée à Joachim, elle provenait en fait d'ailleurs de la Judée. Et dans le fond, ces récits-là, ces légendes-là, proviennent spécifiquement justement de la Bretagne. C'est un folkloriste qui s'appelle Anatole Le Braz, qui a fait le tour de la Bretagne, qui a récolté plein de folklore, de chansons et tout et tout. Puis ça, c'est une des traditions qui était très, très importante en Bretagne, qu'il a récolté, puis qu'il a mis par écrit, puis maintenant, on a accès et tout. Tu sais, la question justement, que j'ai lue se posait la question par rapport à ça. Puis moi, je pense que la meilleure manière de comprendre ça, indépendamment là, des faits qui sont là-dedans et tout, c'est, comme on a parlé, c'est l'histoire universelle. Dans le sens où est-ce que les gens qui ont commencé à amener ces éléments-là, c'est pas qu'ils voulaient mentir sur l'origine ou sur la fin, justement, de Saint-Anne ou quoi que ce soit, ni non plus qu'ils voulaient raconter une histoire physicaliste, si on veut, ou quoi que ce soit. C'est qu'ils voulaient montrer qu'il y avait des gaps, si on veut, dans l'histoire de Saint-Anne. Puis eux, pour s'inscrire, justement, dans cette histoire-là, pour s'inscrire dans l'histoire universelle du christianisme puis de la naissance de Marie, etc., etc., se sont inscrits justement par le biais de ces légendes-là et tout. Est-ce qu'ils sont vrais ou non? C'est très difficile à dire parce que c'est trop loin, mais ils sont vrais, pareil, pour ces gens-là, tu sais, indépendamment de leur physicalisme ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est la même chose même au Québec. Hein. C'est les deux parties dans le monde où est-ce qu'il y a des grosses basiliques dédiées à Sainte-Anne puis que les deux endroits dans le monde où est-ce qu'il y a la plus grosse dévotion à Sainte-Anne. Puis les deux endroits où est-ce que Sainte-Anne est une patronne, c'est le Québec puis la Bretagne.
Ah ouais.
Puis tu sais, on a Sainte-Anne de Beaupré qui est une basilique vraiment immense avec des reliques notamment de Sainte-Anne. Il y a d'autres reliques de Sainte-Anne aussi au Canada un peu ailleurs parce qu'elle a une signification très particulière justement avec le Canada. Certains monastères même orthodoxes. Ben comme je disais à ma paroisse dimanche passé, on avait les reliques de Sainte-Anne qui étaient là, on a pu les vénérer. Mais tout ça pour dire, donc oui, ça s'inscrit dans cette histoire universelle-là, selon moi. Mais peut-être que Jonathan aussi, il y a quelque chose à dire par rapport à ça.
Oui, mais il y a plein de versions des légendes similaires. Là. L'idée de que Joseph d'Arimathée était allé en Angleterre, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires similaires. Là. Puis je pense que vraiment, David, il a raison. La façon de le comprendre, c'est de voir que dans... un peu, tu sais, c'est drôle parce qu'on voit ça même dans les façons que les histoires de fiction se développent, là, surtout les grosses histoires où ben, on essaie de décrire dans les gaps, là, on trouve les endroits où personne n'a parlé de cet aspect-là de la vie de quelqu'un ou des légendes. Puis là, on va remplir ça avec notre propre version. C'est un peu ce que Virgile a fait, là, même avec les légendes grecques. Là, il a comme rajouté sa partie. C'est comme qu'est-ce qui arrive avec Énée après la guerre de Troie, ben, t'sais, moi, je vais vous le raconter finalement. Fait que c'est une version de ça, mais disons dans le monde de la géographie.
Oui, puis on fait la même chose même au niveau individuel. T'sais, quand on a la manière qu'on construit nos narratifs là, de notre vie et tout, on plug les gaps aussi, on explique justement les failles et tout ça. D'ailleurs, je sais que c'est même en psychologie et en psychothérapie, c'est un des éléments. T'sais, des fois, quand il y a des gens qui vivent des traumatismes importants, ça laisse des gaps dans leur mémoire, dans leur propre construction de leur identité et tout. Fait qu'il faut qu'ils aillent dans ces gaps-là pour les boucher, si on veut, d'une certaine manière.
Mm-hmm. Et est-ce que vous savez s'il y a un lien entre... Donc pourquoi ça s'est arrêté sur Sainte-Anne dans le cas de la Bretagne et du Québec? Est-ce qu'il y a une raison symbolique derrière ça ou c'était pas plus significatif que ça?
J'imagine d'en avoir. Moi, je la connais pas, en tout cas.
Ouais. Peut-être que, tu sais, c'est... Parce qu'il y a des reliques qui circulent et tout. Fait que peut-être que ça a un rapport avec des reliques ou est-ce que... Mettons, je dis ça comme exemple, c'est vraiment juste spéculation, mais ça aurait pu être que, mettons, il y a des reliques qui ont été découvertes, par exemple, en Bretagne, ou redécouvertes, par exemple, en Bretagne. Puis là, il y a eu ça. Puis si c'est quelque chose de légitime, ça peut être aussi la sainte elle-même qui aurait communiqué ça à quelqu'un, ou un autre saint qui aurait communiqué ça à quelqu'un et tout. Il y a beaucoup d'histoires que c'est comme ça.
C'est bon. Je peux penser à la prochaine question qui est d'un nom qui est difficile à prononcer. Bicyclette à Saladas, peut-être, qui demandait qu'est-ce que Jonathan pense sur le symbolisme principalement catholique de la France comme fille aînée de l'Église. Est-ce que ça a une place dans l'histoire universelle ou bien est-ce que ça fait partie d'une mythologie auto-agrandissante de Rome et de sa sphère d'influence?
Bien, je veux dire, c'est une. Comment je peux dire, c'est une image mythologique de l'histoire de l'Occident, là. T'sais, c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est pas. C'était à cause de la France, au début, peut-être pas juste la France, mais disons, à cause des Francs, que l'Église a survécu en Occident, tu sais, puis l'influence de la cour de Charlemagne, tu sais, dans le renouveau, le début du renouveau de l'Occident est super important au niveau de la théologie, tu sais, l'idée que le filioque est entré dans le credo, c'est à cause de la cour de Charlemagne, tu sais, à cause des théologiens francs, mais plus que ça, tu sais, on sait que l'Église romaine a été captive de la France pendant vraiment longtemps, là, tu sais, puis pas seulement ça, mais le pape, il était à Avignon. Il y a toute une histoire là, de la relation entre la France, les rois français, puis une espèce de collaboration, conflit, toute une histoire entre l'Église puis la France. Fait que je pense que c'est une bonne image pour comprendre un peu ce qui est arrivé, là.
Bon, prochaine question de Philo Deinos sur notre vidéo gauche-droite. Dans ce vidéo, on avait parlé de gauche-droite, puis du genre d'inversion où des mains se croisent, par exemple le pharaon, le Christ qui bénit, les clés, etc. Demandait quel serait le symbolisme des gestes à deux mains où il n'y a pas de croisement, où les mains sont symétriques et parallèles. Comme par exemple dans plusieurs prières, là, que les paumes soient l'une contre l'autre ou en l'air ou sur le sol.
Mais c'est juste l'union des deux côtés. C'est, ce geste-là, il est super bon. C'est vraiment un super bon geste. Il n'existe pas en Orient. Là. Mais l'idée de mettre les deux mains ensemble, ben, c'est exactement ça. C'est l'union de la gauche et la droite. C'est l'union vers le centre. Puis aussi pointer vers le haut. Là, c'est comme un petit pignon. Là. Fait que c'est la seule façon, je pense, de le comprendre. Là. Parce que quand tu mets l'emphase sur un côté ou l'autre, bien là, tu mets l'emphase soit sur une force concentrique ou une force excentrique, ou bien tu as l'idée d'un mouvement en particulier, mais quand tu les relis ensemble, bien, c'est vraiment une image du centre. Mm-hmm. Ou de l'équilibre, on pourrait dire.
Est-ce qu'il y a un lien avec... Il y avait un follow-up là, que Philo Deinos avait écrit. On a parlé du fait que donner quelque chose était plus respectueux si ça venait de la main droite, d'habitude. Puis... Il parlait que dans certaines cultures, ça serait encore plus respectueux de donner quelque chose à deux mains. Effectivement, ça semble vrai. Là. C'est encore un truc d'unité, j'imagine.
Ah oui, il y a plusieurs versions comme ça qui peuvent te faire comprendre super bien aussi la relation entre les deux. Là, c'est comme des fois deux mains, des fois c'est comme ça aussi. Je me souviens en Afrique, au Congo, c'était les gens mettaient leur main gauche sous leur main droite. Puis là, ils offraient comme ça. Tu vois ça, quand tu demandes la bénédiction là, d'un prêtre, tu fais ça aussi, tu mets ta main gauche sur ta main droite, puis là, tu te présentes comme ça. Fait que c'est l'idée, c'est super intéressant, parce que c'est l'idée de la gauche comme un support extérieur, disons, avec la droite qui est comme plus au milieu ou qui est plus dirigée. Là. Fait que tu peux imaginer un épée puis un bouclier, là, c'est un peu la même logique à différents niveaux. Mais oui, en effet, c'est sûr que tu peux imaginer les deux mains ou bien la main gauche qui supporte la droite et tout. Il y a différentes façons de le comprendre. C'est sûr que l'idée de donner quelque chose avec sa main gauche, ça semble être assez universellement proscrit, là, vu comme étant une sorte de malédiction ou une sorte de « je m'en fous ou... ». Ouais.
Je me demande aussi s'il n'y a pas quelque chose par rapport, on disait aux deux mains que c'est vu comme étant mieux et tout. S'il n'y a pas quelque chose à voir aussi avec l'explicitation. Parce que je pense, mettons, dans les arts martiaux, plusieurs arts martiaux, est-ce que quand tu vas donner la main, mettons, après avoir fait un combat de pratique ou quoi que ce soit, tu vas serrer avec une main, mais l'autre va être à côté, soit à côté, par-dessus ou quelque chose comme ça, ou même les deux ensemble. Puis une des raisons pour ça, c'est pour expliciter le fait que tu caches rien. T'sais, ton autre main n'est pas cachée,
ah ouais, ailleurs,
les deux sont là. Tu ne vas pas l'attaquer ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu explicites le geste que tu es à part entière, si on veut, dans cet acte-là de reconnaissance, peu importe.
Ouais, il n'y a pas de dualité, là. T'as pas une intention cachée dans le geste que tu poses.
Il y avait un dernier commentaire encore de la même personne que. C'est pas une question, je pense que ça avait l'air juste vrai, là, ce qu'il disait. Il y a un symbolisme gauche-droite qu'on voit avec entre autres l'épée puis le bouclier, là, où on place le bouclier devant l'épée. En fait, c'est pareil, il y avait une question. C'était. Y aurait-il un lien entre les mains parallèles et le rapport à quelque chose de précieux, slash sacré, et pourquoi? Dans le sens inverse, les postures agressives chez les humains sont souvent d'avoir la main gauche devant pour se défendre, écarter nous, et la main droite pour attaquer, justement comme l'épée et le bouclier. Mm-hmm. Puis ils ont fait à la boxe aussi, mais le plus frappant, c'est l'épée et le bouclier. Et que comme le fait d'avoir comme gauche-droite ensemble, c'est aussi peut-être de, d'éviter ce genre soit d'agressivité ou de donner, si je peux tenir les deux choses en même temps.
Oui, peut-être, oui, possiblement. Mais je peux comprendre l'idée que quand tu te défends, tu mets ta gauche en avant. Là, c'est, ça a vraiment du sens.
Prochaine question qui était quand même rapide. Quelqu'un se demandait, Stéphane Garneau, si le français ou l'anglais se portait mieux au symbolisme. Puis, entre autres, Jonathan, c'est toi, ton frère. Je ne sais pas si vous avez commencé à penser en anglais ou en français.
Moi, je pense les deux, là. Mais c'est certain que... Il y a une réalité, tu sais, comme moi et Mathieu, c'est drôle, parce que Mathieu et moi, on se parle en français quand on se rencontre, mais on s'écrit en anglais. Puis, je pense que c'est pas nécessairement une question de symbolique directement, mais c'est plus une question de facilité puis d'universalité, là. Parce que c'est assez facile. L'anglais, c'est beaucoup plus facile. Puis, tu sais, notre éducation au Québec était vraiment nulle, il faut être honnête. Là, tu sais, notre éducation en français était vraiment horrible. C'est-à-dire, moi, je me sens beaucoup plus mal à l'aise en français. J'hésite toujours par rapport à la conjugaison, par rapport aux accords et tout. J'ai toujours des hésitations, mais en anglais, j'hésite absolument jamais. Fait que c'est peut-être ça, mais par rapport à la pensée, je pense en français et en anglais, puis souvent, je ne me souviens pas. Si tu me demandes dans quelle langue que je pensais, je ne m'en rappellerai pas. En fait.
C'est bon. Prochaine question de Louise Fernando Hawk, qui posait ça dans notre vidéo sur les monstres, mais ça n'a pas directement rapport aux monstres, c'est plus un truc sur les nombres. Il disait qu'il avait déjà regardé des vidéos sur le nombre 7 comme étant une union de 3 et 4. 3 serait la fluidité, 4 serait la norme, le principe, la stabilité comme le carré. Puis, ça, il racontait, on peut témoigner ce symbolisme très bien en dansant ou jouant les mesures musicales de 3 et 4. Le 3 plus fluide, comme une valse, et 4 plus stable. Dans ce cas, le 6 est la réaffirmation de la fluidité. Mais en lisant le livre de Mathieu et en regardant les vidéos de Jonathan, j'ai trouvé une autre explication qui concerne une vision plus liée à la mathématique du cercle. Le 7, le symbole de la fluidité nécessaire pour ne pas fermer les réalités par un excès de modèle, et le 6 étant cette absence de l'élément fluide qui est le contraire de notre explication. Ces deux visions semblaient contradictoire, premièrement, mais en vous écoutant parler de la contradiction si présente aujourd'hui, excès de normes dans mon côté et la relativisation de l'autre, il me paraît que le nombre 6 peut avoir ces deux significations opposées, comme deux faces d'une même médaille. Puis il aimerait justement savoir au final si 6, ce serait plus un truc de stabilité ou un truc de réaffirmer la fluidité du 3.
Ouais. Ben, c'est ça que moi, je trouve que je trouve que l'explication que Mathieu a donnée du cercle, là, c'est s'il y a une chose dans son livre qui est extrêmement précieuse, c'est cette intuition-là qu'il y a eu. Moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je ne sais pas si ça a déjà été expliqué de cette façon-là, mais j'ai l'impression que son explication du cercle puis de la circonférence puis du radius, c'est vraiment parfait. Puis ça l'aide à comprendre les 6 jours, puis le 7e jour, l'idée de 6 comme étant le chiffre de l'homme ou de la mesure en général. Tu sais, qu'on voit à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, en tout cas, que c'est 66 ou 6, que c'est comme un peu un chiffre qui représente la mesure elle-même, puis que 7 représente le... Mais tu sais, par rapport aux 4 et 3, je sais pas, j'ai jamais... Moi le symbolisme numérique, souvent, je suis toujours un peu... j'hésite des futurs... Le symbolisme géométrique est beaucoup plus stable, selon moi, tu sais, que le symbolisme numérique où les gens comptent et là, ils essaient de trouver des sens. C'est comme pour moi, 3, c'est un triangle. Tu sais, puis c'est un 4, c'est un carré. C'est comme ça que je le vois, tu sais. C'est plutôt que des chiffres comme tels, j'ai tendance à penser plus en... Mais ça, c'est aussi parce que je suis un artiste, là. J'ai tendance à penser en forme géométrique. Je ne sais pas si David, tu as une intuition par rapport à ça.
Pas directement, mais je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé, par exemple, là, sur le quadrivium, notamment sur la géométrie, qui ont fait justement des études de comparer l'arithmétique et la géométrie. Je n'ai pas de réponse à cette personne-là, malheureusement, mais si elle veut regarder, il y a un livre qui a été écrit par une sœur catholique qui s'appelle Quadrivium, puis c'est sur justement les arts libéraux. Puis notamment, elle parle justement des symbolismes des chiffres par rapport à la géométrie, puis elle dissecte tout ça et tout. Fait que, tu sais, ça peut être quelque chose pour cette personne-là d'aller lire, mais je ne sais pas rien d'autre.
C'est difficile le symbolisme des, des nombres, là, il y a tellement de choses possibles, là, comme on n'a pas tant de données, versus quand, par exemple, Jonathan, tu fais rentrer la Bible, puis comment 6, 7 fonctionnent, les répétitions, on a quelque chose de plus gros, là, c'est plus facile d'aller chercher des significations. Là.
Oui, ça c'est intégré dans un narratif, c'est intégré dans une histoire, ouais. C'est plus facile de le voir, mais juste les chiffres comme tels, c'est plus difficile selon moi. Là.
C'est plus facile aussi de tomber dans... Pas que je veux être négatif, là, mais c'est plus facile aussi de tomber dans la spéculation. C'est parce qu'à un moment donné, des chiffres, à force de les additionner, des multiplier et tout, tu peux un peu arriver à n'importe quel résultat. Ça s'additionne. Là. Fait que je suis d'accord avec Jonathan là-dessus. Puis aussi, même historiquement aussi, c'est que c'est pas toutes les sociétés qui avaient les mêmes manières de calculer, par exemple, les chiffres, de calculer le temps et tout. Ça, ça a un impact notamment sur la représentation des nombres et leur relation et tout. Tandis qu'un carré, c'est toujours un carré. Tu sais.
Ouais.
C'est sûr que oui, il y avait des distinctions dans la manière de calculer l'air ou peu importe, des trucs très spécifiques, mais au final, un carré, c'est un carré un peu partout dans le monde. Tu
sais. C'est bon. Il y avait, après ça, une question que j'ai notée, qui en fait qui venait de David lui-même, sur la signification de la chasse-galerie. Fait que déjà, ça serait bien de donner peut-être un résumé. Là. David, peux-tu donner une version?
Oui, ça, c'est ma question pour Jonathan, pour qu'il parle un peu sur le matériel québécois.
Ouais.
Dans le fond, la chasse-galerie, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui ne viennent pas, par exemple, du Québec ou quoi que ce soit, pour, tu sais, mettons l'histoire, on va dire, de base. Après ça, il y a plein de versions différentes, mais c'est un groupe de bûcherons qui travaille dans le bois, dans le nord, très loin. Puis c'est le réveillon, soit du jour de l'an de Noël. Puis dans le fond, ils veulent absolument aller voir leur famille, puis leur blonde, puis tout ça, pour danser, fêter, etc., etc. Puis de ce désir-là, justement, de vouloir aller ailleurs fêter, le diable se présente à eux, puis il leur propose un pacte, où est-ce qu'il dit, je vais vous amener, vous allez pouvoir fêter, mais il faut absolument qu'à minuit, vous soyez partis. Sinon, vous allez m'appartenir à tout jamais. Puis là, comme de fait, eux, ils acceptent le pacte, ils embarquent sur un... La plupart des histoires, c'est un bac sur un bateau volant. Ils s'en vont jusqu'à leur famille, fêtent le réveillon, tout ça. Puis, dépendant de la version, justement, ils brisent le pacte. Après minuit, ils sont encore là, etc., etc. Puis, le diable les enlève. Puis, maintenant, à tout jamais, ils sont pris, si on veut, dans... Leur âme est pris par le diable.
Oui, il y a une version aussi où il ne faut pas qu'ils sacrent. Il faut pas qu'ils sacrent pendant qu'ils sont en train d'aller là-bas, puis il y en a un qui lance un juron. Je pense qu'en général, c'est un peu c'est le symbole du génie. Là. C'est en général, c'est un peu les mêmes histoires qu'on voit dans l'histoire de génie, c'est-à-dire que tu sais, que t'as comme un sacrifice, que tu veux quelque chose, puis là, il y a un coût à payer pour la chose que tu veux. Mais c'est très dangereux parce que la conséquence, disons, il y a comme d'habitude, il y a un truc qui est caché ou un trick là, qui est caché ou il y a quelque chose que tu n'as pas calculé ou il y a quelque chose que tu as mal calculé. Puis là, finalement, ben là, ça se tourne contre toi. Tu sais. Fait que tu peux le comprendre comme un peu le problème de la technologie en soi, tu sais, le problème du fait qu'on s'attache à la technologie, puis comment qu'il y a des effets secondaires à la technologie qu'on ne peut jamais savoir qu'est-ce que ça va être. T'sais. C'est comme si tu te dis un peu le problème qu'on avait parlé, là, de tu fais une voiture, tu penses que ça répond à un désir, mais tu calcules mal les effets secondaires de la voiture, puis là, tu te retrouves avec une banlieue où là, il n'y a plus de connexion entre les gens. Je pense qu'à la base, c'est ça. C'est sûr que il y a quelque chose dans les légendes québécoises qui sont intéressantes, qui démontrent, selon moi, une espèce d'aspect transactionnel qui existait, tu sais, dans la façon dont les Québécois percevaient la religion. Puis j'ai l'impression que ça se manifeste aussi beaucoup dans le fait que le diable apparaît énormément dans nos légendes, peut-être plus que même que le Christ ou que Dieu ou que les saints. Tu sais, c'est le diable qui est comme un peu le personnage principal. J'ai l'impression que d'un côté, ça peut montrer un aspect superstitieux au mauvais sens, là, où les Québécois semblaient concevoir la religion de façon transactionnelle, c'est-à-dire, OK, je fais telle affaire pour un saint, ben là, je reçois ça, je fais telle affaire, je reçois ça. Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi peut-être d'autres choses aussi. Il y a aussi la raison pourquoi le diable apparaît peut-être beaucoup dans les légendes québécoises, c'est peut-être aussi une sorte de conscience ou juste manifestation inconsciente du fait que les Français vivaient dans un monde, selon eux, sauvage. Ouais. Tu sais, qu'ils étaient...
Ben, justement.
Ouais.
Ben, je voulais dire, justement, il restait très pessimiste parce que les histoires européennes équivalentes à celles-là, comme tu dis, l'aspect de génie où est-ce qu'ils font un pacte, mettons, avec une créature de la forêt, etc., etc. En général, quand ils arrivent au moment où est-ce qu'ils ont brisé le pacte, qu'ils n'ont pas fait la bonne chose, il y a tout le temps un Deus Ex Machina qui arrive et qui les sauve.
Ouais.
Puis, tu sais, la créature de la forêt ou le démon, peu importe, ne gagne pas sur la
ouais. personne. Rumpelstiltskin, genre.
Il y a juste au Québec quasiment qu'à chaque fois, s'il y a un pacte et qu'il brise, ils perdent.
Ils perdent leur âme, c'est ça.
Il n'y a pas de saint qui arrive pour les sauver ou quoi que ce soit. C'est très pessimiste, quasiment.
Mais je pense que ça a peut-être rapport avec ça. Ça aurait peut-être rapport avec aussi de la, un peu la réalité de vivre dans un monde qui est très dangereux pour nous, qui est vraiment pas du tout contenu, là, qui est pas contrôlé, qui est un peu hors de notre contrôle. Ça se peut que c'est tout ça. Mais c'est sûr qu'il y aurait probablement beaucoup de choses à penser par rapport à ça. Il y a aussi la légende là, de la fille qui danse avec le diable toute la nuit. Là. Ça, c'est une légende qu'on voit souvent dans le folklore québécois aussi. Mais je pense qu'il existe dans d'autres cultures, mais c'est intéressant par rapport à la possibilité aussi du contraire. T'sais. De dire, on joue avec le danger, on vit dans un monde dangereux, on fait des paris dans le fond. T'sais, tu peux imaginer là, les gens qui viennent ici, là, les premiers colons, là, c'est vraiment un pari qu'ils font. Là. C'est quand ils mettent leur vie en ligne pour quelque chose qu'ils ne savent pas c'est quoi. Ils n'ont aucune idée. Ils viennent ici, il n'y a même pas d'agriculture, il n'y a rien. Puis il y en a plein qui meurent. Tu sais, c'est comme au début, ils font juste mourir. Mais qu'il y a un moment donné, quelqu'un qui réussit à maîtriser la forêt, on pourrait dire. Là, puis réussir à ride the beast là, un peu. C'est l'impression que j'ai.
On pourrait passer à la prochaine question. C'était Catherine. Ben c'est mon épouse qui avait une question. Elle se demandait, concernant la beauté féminine, pourquoi en général, est-ce que les femmes avec des grands yeux sont considérées comme plus belles? Les hommes ne sont pas plus beaux avec ce trait. Puis elle trouvait ça curieux parce qu'en général, la vue, c'est plus associé au masculin. Le genre de... comme pénétrer des choses pratiquement. Hein. Mm-hmm. Puis, ça me fait penser à d'autres caractéristiques. Là. Je ne sais pas, comme finalement plus grosse mâchoire, c'est un rapport à manger, là, comme consommer du potentiel. C'est un truc plus masculin, fait que c'est pas trop étonnant que ce soit peut-être plus attirant chez des hommes que chez des femmes, par exemple. Mais je ne sais pas s'il y avait quelque chose avec la grosseur de certaines choses qui serait attirantes plus chez un homme que chez une femme.
Oui. Ça va, comment je pourrais dire. Ça va peut-être mal aller pour les gens de réaliser ça, mais c'est que la beauté féminine puis l'idéal féminin il est lié à la jeunesse, tu sais. Puis la beauté masculine puis l'idéal masculin il est pas du tout lié à la jeunesse, il est lié à la capacité, disons. Fait que c'est pour ça, tu sais. Puis c'est pas juste la question des grands yeux ou tout ça ou des traits fins. Ça peut expliquer beaucoup de choses là, par rapport aux relations entre les hommes et les femmes. T'sais, je veux dire, tu regardes un film, puis tu as un gars qui a comme 60 ans, puis il est encore considéré comme le sexy guy. T'sais. Mais ça ne peut pas exister pour une femme. T'sais. C'est juste, c'est comme un peu une sorte de réalité. C'est ça. Je sais pas si David a quelque chose à dire. C'est un peu la. C'est ça. C'est des choses qui peuvent être difficiles, mais c'est pour ça aussi que dans toutes les sociétés traditionnelles, les hommes marient en général des femmes qui sont plus jeunes qu'eux, que c'est quelque chose qui est totalement normal. Puis le contraire est une exception. Là.
C'est bon, ça répond. Là, on arrive bientôt dans un coin où il va avoir. Il reste peut-être une dizaine de questions, mais là-dessus, il y a des gens qui ont posé comme plusieurs questions aussi. Là, fait que ça dépend de combien de temps vous avez, vous aussi, Jonathan et David. Ça fait presque déjà une heure.
Moi, je pense qu'on peut faire une heure et demie, là, comme il faut. Là.
Ouais. C'est bon. On devrait être capable de toutes les faire dans ce que je pense. La prochaine question de Marianne qui se demandait par rapport au signe de la croix, y a-t-il une relation entre le Père et maintenant, le Fils et toujours? Le Saint-Esprit et les siècles des siècles. Comme, en général, je ne sais pas s'il y a une différence temporelle entre les personnes au niveau de ce symbolisme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses là-dessus. De mon côté, non.
Moi, j'ai jamais vu ça. C'est sûr que C'est sûr que c'est une analogie qui est probablement facile à faire parce qu'il y a 3-3, là. Mais j'ai jamais vu ça, puis j'ai jamais pensé. Il faudrait y penser, mais ça fait penser un peu au truc de comment il s'appelle, le penseur catholique, je ne me souviens plus, là, qui avait ça. Oui,
les âges
du Père, les âges du Fils, les âges du Saint-Esprit. Mais non.
Mais je sais que théologiquement, justement, c'est un des éléments que même les pères de l'Église mentionnent souvent, où est-ce qu'ils vont dire justement, ah ouais, on utilise des mots pour parler de Dieu, c'est justement comme par rapport à la procession ou à la génération et tout. Mais ces mots-là, ils ont une connotation temporelle pour nous. Mais c'est là justement que la théologie apophatique est importante parce que pour Dieu, ça n'a pas de connotation temporelle. T'sais. Tout est en dehors du temps par rapport à tout ça.
Mais toi, David, est-ce que tu vois intuitivement une relation entre maintenant, toujours et dans les siècles des siècles avec la Trinité? Est-ce que tu es capable de percevoir quelque chose?
Bien, c'est sûr que, mettons, le Père, en général, on l'associe beaucoup au ground of being, mm-hmm. Je ne sais pas comment le dire en français.
Oui.
À la base de la source, c'est ça.
Oui, la source.
La source. Fait que, c'est normal qu'il y ait une espèce de maintenant, si on veut, un maintenant avec un M majuscule quasiment, pour mm-hmm. la source. Parce que c'est de là que tout le reste provient, puis entre guillemets, tout provient de l'instant présent. T'sais, même dans notre conscience, quand on perçoit le passé, on le perçoit par le présent. Même le futur n'existe pas réellement autre que dans le présent, mm-hmm. de notre conscience et tout. Fait que c'est sûr qu'il y a cet élément-là. Puis étant donné que le rôle, justement, du Saint-Esprit, c'est d'amener vers le Père par le biais du Fils, t'sais, l'humanité et tout, c'est sûr que cet aspect-là des siècles, dans le sens de. Dans le futur, etc., etc.
Qu'une espèce d'idée eschatologique où l'Esprit Saint aurait comme arrivé au bout du monde, aurait ramené tout vers le Père, mm-hmm. disons.
Mm-hmm. Mais je sais pas, c'est une bonne question.
Mais c'est pas si mal, je trouve. Donc c'est une bonne piste à commencer à y penser, ça c'est sûr.
Ouais. Si tu avais des recommandations de trucs à lire aussi, Marine était curieuse.
Non, bien ça, vu que moi, je n'y avais jamais pensé, je n'ai pas nécessairement de recommandations.
Hey, par rapport à ce que je disais sur la manière justement temporelle et temporelle de concevoir justement de Dieu et tout ça, dans le livre d'introduction à la théologie, je pense que c'est l'introduction à la théologie dogmatique de. Comment il s'appelle théologie. Ben, je pourrais l'écrire plus tard au pire en commentaire, mais et je sais qu'il parle justement de tous ces aspects-là, de la temporalité, comme si on veut. Comme une manière de concevoir la Trinité, mais qui est une manière qui est nécessairement. C'est une béquille, dans le fond, mm-hmm. parce que c'est pas ça la réalité de la Trinité et de la divinité.
C'est bon. Ouais, ça, fait que ça va être dans les commentaires, tu pourras aller voir. Dernier aspect de cette question-là par rapport aux personnes de la Trinité, c'était s'il y avait quelque chose dans le signe de la croix qui était avec les trois personnes. Puis ça, c'est beaucoup plus facile à voir, là, je pense, parce que comme le Père commence avec le haut. C'est le Père qui est aux cieux. Et après ça, le Fils qui descend, le Fils qui s'incarne, qui descend jusque dans la mort. Et après ça, le Saint-Esprit horizontalement, qui est l'union, disons, l'esprit d'amour qui unit les gens horizontalement, qui fait le pont entre le Père et le Fils aussi. Et ça, c'est beaucoup plus facile à voir que le temps, je trouve. Je pense que ça répond au deuxième aspect de la question. Je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter sur cette géométrie-là, Père, Fils, Saint-Esprit.
C'est très bien.
Parfait. Après ça, on a une question de sans rancune sur le fou et le bouffon. On avait à l'occasion parlé du fou et du bouffon qui opère une inversion révélatrice d'une faille de l'autorité, mais on comprend généralement qu'il le fait avec un certain talent, ou au moins par un procédé qui atteste de sa conscience, de ce qu'il révèle et donc de son utilité. Qu'en est-il des véritables idiots ou encore des gens profondément ridicules? Comment faut-il considérer le rôle symbolique de ces personnes devant qui on ne sait que grincer des dents, soupirer ou se détourner?
Ben moi, je pense qu'ils jouent le même rôle. Là. Ils jouent le même rôle, c'est juste qu'ils ne le font pas à leur propre salut. Tu sais, c'est-à-dire un vrai fou qui est conscient de ce qu'il fait, ça peut devenir une forme de réalisation là, dans son cas. Tandis que quelqu'un qui est ridicule, quelqu'un qui est comme ridicule par accident, ben là, ça l'aide pas, disons. Mais ça dépend. Peut-être que ça pourrait de façon accidentelle aussi l'aider, mais en général, c'est plus que tu peux. Quand quelqu'un se rend ridicule, disons, ça va quand même exposer les failles dans le système. C'est-à-dire, ça va exposer la façon dont le système est pas complet. Tu sais, parce que, tu sais, je sais pas, moi, tu marches, puis là, il y a quelqu'un qui glisse, puis qui tombe dans la boue, là, tu sais. Il n'a pas fait exprès. Puis là, tu ris un peu, il n'a pas fait exprès. Mais ça l'expose la façon dont le monde est ritualisé d'habitude. Même s'il ne fait pas exprès. Ça te fait voir le rituel, puis la possibilité d'échapper du rituel, puis les conséquences. Donc. Je ne sais pas si ça a du sens. Hein.
Je pense que ça fait du sens, oui.
Oui.
Mm-hmm. Ouais, parce que au final, l'humour aussi, c'est toujours quelque chose qui. C'est l'humour dans ce que c'est, mettons, involontaire. Mais c'est quelque chose qui échappe à des catégories normales. T'sais, une joke, c'est pas juste une histoire normale, genre je me suis levé, j'ai attaché mon soulier. Il faut qu'il y ait quelque chose qui échappe à la réalité normale, qui échappe au contenu, on va dire, logique de la procession normale d'une histoire ou quoi que ce soit. T'sais, c'est pour ça que les fameuses jokes québécoises avec un punch à la fin, puis etc., etc. Parce que justement, tu arrives à la fin, puis il y a une subversion qui fait que tu revois tout le reste différemment. Mm-hmm. Je pense que ça peut être vrai même pour un cas où est-ce que c'est comme j'allais dire à quelqu'un qui tombe, par exemple, où est-ce que c'est non volontaire. Tu sais, tu marches, tu t'attends à ce que la personne devant toi continue de marcher, puis whoop, elle glisse, puis elle tombe. Ouais. Fait que c'est drôle parce que c'est une subversion même de ta propre perception de la réalité.
Oui, puis même un fou, c'est-à-dire un vrai fou, là, quelqu'un qui a perdu la raison. Tu sais, comme donc pour quelqu'un qui prend pour acquis la raison, tu sais, qui la prend comme un don, comme quelque chose de donné, là, qui auxquels ils ne sont pas totalement conscients. Quand tu fais face à un fou qui te parle, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé. Quand même, au début, quand il te parle, tu sais, tu sais pas, tu sais, tu penses que la personne est normale, surtout s'il n'est pas comme toute dégueu ou sale ou whatever. J'ai une personne normale qui vient, qui te parle, puis à un moment donné, tu réalises qu'il n'y a pas de lien entre les énonciations. Tu sais. Puis là, tout d'un coup, la personne, elle parle, puis là, t'sais, tu réalises qu'il y a une façon d'arriver face à face avec un monde qui est non-sens, là, ou qui se manifeste comme le chaos lui-même. Là. Moi, je reçois des emails des fois comme ça, là, des gens là, qui voient du symbolisme. Là. Ouh, t'sais, des fois, là, tu commences, tu essaies de comprendre. Puis tu réalises que vraiment totalement disjoncté, il n'y a aucun lien entre les idées. C'est juste, c'est super long. Là, t'sais, c'est comme un email de 20 pages. Mais c'est complètement, il n'y a aucune connexion entre les idées. T'es. C'est ça.
Oui, puis c'est à l'inverse aussi, juste parce qu'il a mentionné, mettons, le terme idiot dans sa question. Il y a des gens qui, mettons, vont avoir des problèmes, on va dire des problèmes mentaux, qui vont avoir un intellect qui n'est pas comme les autres autour d'eux. Puis justement, d'une part, mettons, on voit que t'sais, dans les cirques, les carnavals ou quoi que ce soit, les simples d'esprit, en guillemets, pas que je défende cette pratique-là ou quoi que ce soit, mais souvent, ils étaient impliqués justement dans ces carnavals-là, dans les cirques et tout. Puis, tu sais, il y avait un rôle important. Puis, tu sais, oui, dans ce cas-ci, ça manque de charité parce que c'est à leur dépens. Mm-hmm. Mais reste que ça participait quand même, si on veut, ouais. À la même manière de faire. Puis, tout le long de l'histoire aussi, tu sais, par exemple, je vois ça souvent des fois, mettons, sur des groupes orthodoxes, quoi que ce soit, où est-ce qu'on nous montre des gens qui, par exemple, qui sont atteints de trisomie ou quoi que ce soit, puis ils nous les montrent justement dans leur simplicité, puis ça devient justement des modèles aussi. Tu sais, même si, entre guillemets, selon certaines personnes, ils seraient sains d'esprit, qui seraient considérés comme étant idiots, tu sais, ce qui était le cas, par exemple, avant, est-ce qu'en réalité, on peut percevoir une innocence positive aussi dans leur manière d'interagir avec le monde, d'interagir avec les autres et tout. Tu sais.
Oui, mais dans la tradition russe, vraiment, ils ont un grand respect pour des gens que nous, si on leur donnerait une définition médicale là, ou psychologique, ouais. On dirait qu'ils sont déficients ou qu'ils sont trisomiques ou quoi que ce soit. Mais il y avait des histoires de gens comme ça qui existaient dans les sociétés russes. Qui sont carrément vénérés, là, qui sont vus comme des saints, mmh. Des gens qui vivent simplement, qui trouvent de la joie dans les choses les plus minimes.
Oui, exact, c'est ça. T'sais. Puis ça ramène un peu au fait que nos catégories modernes, justement, sont c'est beaucoup les catégories d'exclusion. Où est-ce que ces gens-là ne fitent pas dans le modèle de l'intellect, de la participation à la société et tout. Mmh. Fait qu'on les tasse, puis on leur enlève justement cette leçon-là, en fait, qui nous donne. C'est une leçon d'humilité.
C'est bon. Prochaine question de Simon Laberge, que je pense David connaît. Je ne sais pas si Jonathan même le connaît aussi, parce que je pense que c'était dans le coin de Montréal que vous connaissiez, David.
Oui, oui, oui. Mais je ne sais pas si... En tout cas, je ne veux pas parler de sa vie. Je vais le laisser. Je vais le laisser.
C'est bon. Mais il se demandait... Ça, c'était en rapport aux questions qu'on a commencées au début avec Orthodoxie versus Catholicisme. Il se demandait, lui qui est toujours catholique comme moi, il serait curieux de connaître mon opinion sur la situation de l'Église et l'exode de certains vers l'Église orthodoxe. Ça, ça rejoint un peu ce que j'avais dit plus tôt aussi, là, au fait que il y a... Mettons... Si disons ça va bien à ta paroisse, puis comme mettons moi je vois que les choses vont bien ici, puis que c'est sûr qu'il se passe toujours des folies au Vatican depuis longtemps. Là. Ça fait longtemps qu'il y a plein de trucs qu'on sait qui sont bizarres là-bas. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais ça prend soit un bout de temps avant que ce genre de choses-là se ramasse dans des paroisses, là, puis ça a le temps de se corriger avant. Là, j'avais déjà entendu Jonathan parler dans un Q&A sur entre autres l'art qui avait été fait dans la chapelle Sistine, puis des trucs qui sont vraiment pas propice à la prière, disons, mais tu sais, tu n'aurais jamais vu ça dans des paroisses où les gens vont vraiment être en train de prier, là, comme en campagne quelque part. Hein. C'est que il y a un danger, disons, à essayer d'aller regarder ce qui se passe trop haut ou trop loin de toi dans ta hiérarchie, parce que tu sais, c'est trop loin, là, tu ne peux pas vraiment savoir ce qui se passe. Là. Moi, d'être évêque, c'est sûr d'être capable de bien juger ce genre de truc-là. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de ce que le pape fait ici et là, mais ça ne va pas nécessairement les mener à des bons endroits. Là. Moi, pour des gens que j'ai vus autour de moi faire ça, là. Parce que les gens que je vois qui essaient de cheminer comme localement ou ce qu'ils peuvent à leur échelle, à la hiérarchie, les choses vont généralement mieux pour eux. Là. Puis c'est des passages plus inspirants. Fait que à cause de ça, là, ce genre d'exode-là que certaines personnes ont vers des branches plus traditionnelles, m'inquiète pas trop. Là.
Ben, c'est pas au Québec, tu sais, je dis. Comment je veux dire, on pourra dire, en ce moment, il y a quand même une belle poignée de catéchumènes, disons, au Québec. Mais je pense que la majorité de ces gens-là, c'était des catholiques non pratiquants aussi. Ce n'était pas nécessairement des gens qui étaient super impliqués dans leur paroisse. Je connais certaines personnes que ça, c'est le cas, mais la majorité, c'est des gens qui étaient soit athées ou soit... Fait que non, c'est ça, tu sais, j'ai pas... Je pense qu'il faut. C'est sûr que je pense que l'orthodoxie, c'est comme une sorte de plénitude de la tradition. Je n'ai pas peur de le dire. Mais en même temps, on a chacun nos réalités dans lesquelles il faut vivre pour le vrai. Là. Puis c'est ça le danger aussi de l'Internet, des fois, c'est qu'on peut s'imaginer des réalités qui n'existent pas. Puis là, s'attacher à des réalités qui ne sont pas possibles. Fait qu'il faut, il faut trouver un équilibre entre les deux.
Ouais. Des fois, je vois des trucs. J'avais un ami avec qui j'ai parlé un petit bout qui. Ça me faisait penser à des gens qui parlent, disons, sont sur des forums pour savoir quel genre d'entraînement physique faire, par exemple. Là. Comme c'est quoi le meilleur style, tu vas te faire du crossfit, tu vas te loger, tu vas te courir, puis ça. Puis finalement, ils ne vont jamais rien faire.
Faut jamais.
Bon, passer beaucoup de temps à regarder c'est qu'est-ce qui est mieux, puis jamais commencer à mettre le pied à terre pour commencer à faire quelque chose. Parce que de toute façon, tu vas beaucoup changer là, en faisant ce genre de choses-là. Tu essaies quelque chose pendant 6 mois, 1 an, disons. Puis là, tu vois, est-ce que tu te sanctifies, est-ce que tu vois que tu te rapproches de Dieu ou non. Puis alors ça, tu peux essayer d'évaluer. Puis là, il y a plein de débats concrets. Comme, tu sais, comme Jonathan disait, tu peux reconnaître que tu es dans une tradition que tu crois qui est vraiment celle qui est la plénitude. Mais aussi, je suis capable de voir que c'est pas comme si j'étais au sommet même de ma propre hiérarchie. Là. Ouais, c'est dur même pour moi dans un débat comme ça où je comprends des hiérarchies, ce serait dur même de bien comprendre la mienne. Là. Fait que j'essaie de voir. Prendre, je vois que je suis à un endroit où je peux. Donc, aller à des belles liturgies souvent, je suis ancré avec un réseau d'amis, je connais des gens avec qui je peux discuter de sujets intellectuels, il y a de la famille, comme mon épouse, des gens de tous les côtés. Fait à cause de ça, comme c'est possible de reconnaître que okay, je pense que je suis à la meilleure place, comme d'un point de vue abstrait, mais aussi d'un point de vue concret. Mm. Puis je sais que je vais changer dans des années, je n'essaierai pas tout de suite d'aller dans des raisonnements trop abstraits. Je vais commencer à faire quelque chose, commencer à faire du sport au lieu de. De toujours débattre sur c'est quoi la meilleure chose à faire.
Oui, c'est ça.
Prochaine question, je regarde un peu le temps. On n'aura pas le temps de tout faire parce que il y a des gens qui ont posé beaucoup de questions, donc j'essaie au moins de répondre aux questions des gens qui en ont laissé une.
Ouais.
Il y a des bonnes aussi sur le chat.
Moi, c'est sûr, 2h30, je vous laisse. Ça va être ça mon break-up.
C'est bon. Fait que, je vais essayer de regarder. Il y en a une, OK.
Hey, on a quand même, oui. On avait quand même, là, ça a baissé, mais tantôt, on avait comme 20 personnes. On a 15, 20, 13. C'est pour le français, c'est.
En milieu d'après-midi.
Ben oui. Surtout que c'est probablement surtout des Québécois. Malgré qu'il y a quelqu'un qui... Ouais, il y a des noms qui ne sont pas du tout québécois. Dans...
Il y a quand même quelques franco... Il y a quelques Français aussi, puis des gens, on dirait, dans des pays latins. Okay. Mais prochaine question de Guillaume Rousseau, qui se demande, il dit « Bonjour, merci pour votre temps. Il existe une tendance dans la philosophie morale contemporaine à vouloir fonder l'éthique dans l'immanence et ainsi évacuer toute conception universelle et transcendante qui dépasserait l'accord intersubjectif. Cette conception prétend pouvoir passer du bas vers le haut sans que le haut puisse se manifester dans le bas. Qu'est-ce que vous pensez de ce courant de pensée de la transcendance qu'occupe l'immanence dans notre conception du monde? »
Non, mais c'est pas juste dans la moralité, c'est vraiment une sorte de maladie, là, tu sais, l'espèce d'idée d'émergence, tu vois que c'est intéressant, parce que t'as juste à porter attention un peu aux gens là, qui poussent dans cette direction-là, puis tu sens que, tu sais, on dirait que tu vois quasiment dans leurs yeux que c'est des gens qui fuient Dieu, là, qui fuient le transcendant, ils font tout, ils essaient de donner l'impression qu'ils sont comme neutres et objectifs, mais tu vois qu'ils font tout pour éviter de regarder la lumière, là, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, j'ai pas beaucoup de patience pour ce genre d'approche-là, parce que, un, je trouve que ça nie un aspect de la réalité, ça nie un aspect de la façon dont on a l'expérience des choses, parce que, disons, même là, au niveau le plus immédiat possible, imagine que tu prends le côté émergent, puis tu trouves une sorte de moralité émergente, puis là, tu la reconnais, puis là, tu fais des lois. Tu viens de participer aux mêmes affaires qu'il décrit dans Genèse 1. Je vois que c'est bon, puis là, c'est ça l'identité. Fait que, même si c'est ça, même si on reconnaît des choses émergentes, puis après ça, on les codifie, puis on les nomme, puis on les applique avec un jugement, ben, on vient de participer au top-down. Tu ne peux pas l'éviter. C'est vraiment malhonnête. Pour moi, c'est très malhonnête. Aussi, c'est malhonnête. Des fois, c'est pas malhonnête. Au moins, au mieux, c'est une sorte d'ignorance que c'est fractal. Ils veulent juste imaginer, tu sais, comme Dieu, disons, dans le ciel qui impose ses trucs. Fait qu'ils réalisent pas qu'ils sont constamment en train de répéter le système à différents niveaux de réalité. Mais je pense que souvent, c'est un peu une sorte de c'est vraiment une sorte d'anti-église, anti-christianisme, qui se manifeste là, dans leur éthique. Là. Je sais pas. Que vous en pensez, vous deux?
Il y a toute la question aussi de l'origine, dans le sens où ce que tu parlais, mettons, justement, ils vont dire, OK, ça, c'est une pratique morale qui est bonne, fait que j'ai pas besoin de Dieu pour dire que c'est bon, puis je sais pas, mais il y a toujours l'aspect méta de dire, okay, mais selon, c'est quoi l'origine de ton...
Par quoi tu évalues que c'est bon, exact, c'est ça. Hein?
Par quoi tu vas évaluer que c'est bon? Hein? Après ça, ça pose une autre question. S'il donne une réponse, ben là, tu peux poser la question par rapport justement à sa méta-éthique, à son épistémologie, à sa métaphysique. T'sais, tous ces éléments-là sont tous interreliés. T'sais, faire un jugement qui est éthique, ça a nécessairement aussi une connotation épistémologique et métaphysique. T'sais? Puis, d'un certain sens, la preuve est aux athées, d'un certain sens, là, je ne veux pas faire d'apologie, ouais, oui. Mais la preuve est aux athées à démontrer justement qu'ils peuvent réussir à faire quelque chose à l'extérieur de ces catégories-là. Parce que pour nous, ça fait des milliers d'années, on a toute la tradition. Puis mon but, ce n'est pas de faire un appel à la tradition, c'est juste de dire que ça marche. Puis je peux dire ça marche, pourquoi? Ouais. Parce que dans le sens où est-ce que, tu sais, si on pose la question, puis quelqu'un dit, ouais, mais la logique, ça marche. Ils n'ont pas besoin de Dieu et tout. OK, mais ça marche, pourquoi ça marche? C'est quoi ton critère de dire que ça marche?
C'est quoi qui fait que tu dis que ça marche et par quel critère que tu décides?
Exact, c'est ça. Puis, tu sais, mon but, c'est comme je dis, c'est pas rentrer dans des strawmen ou quoi que ce soit, mais c'est juste de dire, tu sais, il faut toujours poser des questions par en arrière. Puis, cette question de l'origine par rapport à l'immanence, ça reste toujours comme en background, si on veut. C'est peu importe le système qui peut être construit. Mais je sais que Jean-Philippe, tu avais beaucoup parlé avec notamment John Verbeke, qui parle beaucoup de l'immanence, puis d'émergence et tout.
Fait, qu'est-ce que tu as à dire de ça, toi, Jean-Philippe?
Ben, je pense d'accord ce que vous avez dit. Là. Au final, je pense qu'il y a un genre d'aveuglement moderne qui s'est développé à travers les siècles. Là. Même ça a pris du temps pour que les gens deviennent opposés, disons, explicitement au niveau philosophique, mais même moralement, à l'idée qu'il y a quelque chose qui vient de plus haut et qu'il y a une influence sur l'émergence qui se passe en bas. Là, c'est un point où je le vois entre autres dans mon éducation, où c'est largement, c'est jusqu'à temps que je commence à faire une maîtrise en philo, j'avais une éducation plus scientifique. Puis implicitement, c'était une vision du monde vraiment émergente des choses, là, où il y a un genre d'aveuglement à certaines questions auxquelles on n'est pas capable de répondre. Fait que, si on n'est pas capable de bien répondre c'est quoi la nature des lois qu'on a en physique, ben on va juste en parler. Puis, tu mets ça sous le tapis, puis de l'autre côté, tu fais plein d'exercices pour montrer plein de choses avec ta façon physique de voir les choses. Puis tu fais ça pendant plusieurs années, puis à un moment donné, ben, ce que tu as mis sous le tapis pendant longtemps, tu t'en rends juste plus compte. Là. Ouais, à un moment donné, tu vas frapper un mur, puis là, différentes personnes peuvent frapper différents murs. Moi, c'était la conscience. Puis, à un moment donné, ben, c'est bien beau parler d'émergence de plein de choses, puis je peux calculer un plein d'affaires, comprendre même comment les ordinateurs devant moi marchent, puis ça, mais je n'ai pas qu'à parler de ma conscience à moi. Mm. Fait que c'est quand même un gros trou dans une théorie, puis différentes personnes vont frapper d'autres murs. Là. Par exemple, c'est dur de faire sens de la moralité, c'est dur de faire sens de la rationalité aussi. Là. Si c'est juste des atomes, ben, hein, où ta théorie qui parle des atomes là-dedans. Fait que différentes personnes frappent différents murs, puis ça prend comme du travail une fois qu'on a réalisé un mur. Mais c'est intéressant parce que tu as mentionné John Rubicki, à qui Jonathan puis moi, on parle de temps en temps. Puis c'est, lui, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu comme académique, scientifique, mais qui voit même dans ce milieu-là que tu dois parler d'émergence. Comme, tu dois parler de quelque chose de transcendant qui vient contraindre l'émergence qui se porte vers le bas. Fait que il y a justement, tu sais, de la même façon qu'une personne individuellement frappe un mur en se rendant compte que ben, c'est, je ne peux pas juste toujours éliminer la transcendance, à un moment donné, il arrive des problèmes. Mais comme à l'échelle disons, de la sociologie des sciences, il y a aussi certaines disciplines où les murs sont rendus trop gros, puis on commence à aller retrouver des vieilles notions de transcendance. Fait que c'est peut-être encourageant, là, que dès qu'il y a du changement, c'est dur de voir si ça va être toujours possible, là. Mais reste que, comme, je pense que c'est de plus en plus accepté que juste l'immanence, c'est pas suffisant. Il y avait une question dans le chat que je trouvais drôle. Là. Quelqu'un, il avait fait l'observation, il se demandait c'est quoi le symbolisme des licornes. Très traditionnellement, c'est des créatures qui existent depuis longtemps, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les licornes sont populaires, disons. Il semble en avoir beaucoup. Puis, je ne sais pas s'il y a une signification à cette chose-là.
Oui, c'est sûr qu'il y a une signification en ce moment. C'est-à-dire, le symbolisme de la licorne ancienne, c'est vraiment important parce que c'était vu comme une sorte de bête sauvage, vraiment, disons, une bête extrêmement dangereuse, mais qui pouvait être tamed, tu sais, qui pouvait être...
Dompté
par surtout par une femme, là, une femme pure, disons, pouvait dompter la licorne. Tu vois plusieurs images des tapisseries de licorne qui sont connues là, médiévales. Fait que c'était ça un peu l'image de la licorne au Moyen Âge, mais c'est encore ça. C'est encore ça, mais c'est de l'autre bord. C'est-à-dire, c'est le côté sauvage, non-identité, on pourrait dire, ou l'idée de quelque chose qui n'existe pas. Le potentiel d'existence, on pourrait dire comme ça, mais qui est comme... alors, c'est pour ça que la licorne est aussi elle a des couleurs d'arc-en-ciel, tu sais, la licorne arc-en-ciel. C'est vraiment la mascotte de notre monde en ce moment parce que c'est comme... Comment je peux dire? C'est ça, c'est la manifestation des franges, là, tu sais, du wild, mais comme cute, comme quelque chose qui est pas du tout dangereux. Puis c'est aussi l'idée de quelque chose qui existe juste sans potentialité. Hein. Fait que on essaie de nommer les choses qui sont juste la potentialité indéfinie, là, qu'on essaie de les... Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est lié avec tout ce que vous voyez, là.
C'est bon. Peut-être une dernière question dans le chat. On n'aura pas le temps de passer à travers tout, là. Merci tout le monde, mais c'est déjà qu'on a laissé beaucoup de commentaires. Et qu'on est capable de passer à travers chacun. On va peut-être être capable de les récupérer pour un autre Q&A. Fait qu'on pourrait finir avec une question de William Trudel dans le chat, qui, on voit à quel point on est capable de répondre dans le temps qu'on a. En fait, il parle des énergies incréées de Dieu. Puis, ça c'est un gros sujet, mais je vais lire un commentaire. Il dit, j'ai appris que les énergies incréées de Dieu forment l'unité. Dans l'expérience de la beauté, il est dévoilé la vérité, la grâce, la lumière, le bien, la vie, le pardon, l'amour et le jugement. J'aimerais que vous élaboriez sur l'unité de la multiplicité des énergies incréées qui peuvent être permises à l'homme de partir. En général, la multiplicité des énergies.
Moi, c'est le genre d'affaire sur laquelle je parle pas souvent sur ces choses-là parce que je trouve ça vraiment difficile. Il y a certaines personnes sur Internet, tu sais, on va pas les nommer, mais il y a certaines personnes sur Internet qui parlent juste de ça. Ce serait peut-être mieux d'aller vers ces gens-là là, tu sais, qui aiment parler des énergies incréées de Dieu. puis la relation entre les énergies puis les essences et tout. Mais j'ai tendance à éviter d'en parler. Mais peut-être vous autres, vous êtes à l'aise. Peut-être David, tu es peut-être à l'aise de parler des énergies incréées.
Honnêtement, non. Dans le sens où, je veux dire, je comprends. Ça ramène un peu à ce que Jean-Philippe disait plus tôt, là, dans le sens où est-ce qu'il faut être capable de parler des choses qui sont à notre niveau de la hiérarchie. Genre, tu sais, je comprends ce que j'ai à comprendre, je considère comme orthodoxe. Mais de là à l'expliquer à quelqu'un d'autre, ou pire encore, de répondre à une question, c'est peut-être un peu trop pour moi.
Ouais, désolé.
Ouais, c'est bon. Elle a exactement l'attitude que j'ai aussi. Il y a des sujets exactement comme ça là, qui me font amener à. Que j'arrête de me poser trop de questions, là, parce que, genre, ce genre de truc-là, j'ai beaucoup lu, par exemple, Saint-Maxime, certains parcs cappadociens qui parlent de ça. Puis j'ai aussi lu des gens dans la tradition occidentale, comme Saint-Augustin, Saint-Thomas, qui ont des traitements différents de ce genre de choses-là. Puis je suis pas capable de dire qu'il a raison. T'sais, plus je lis un, plus je vais trouver qu'il a raison. Mais après ça, juger l'un ou l'autre, sont deux branches qui sont plus brillantes que moi, puis qui ont créé plein de saints, puis je suis pas capable de décider, là. Fait que. On peut les lire, puis être intéressé, puis essayer de faire du chemin, mais à un moment donné, si c'est trop loin de nous, on va essayer de faire des trucs plus pertinents à notre niveau de hiérarchie. C'est bon. Fait que, je pense que ça répond. On aurait essayé de répondre pour moi à une question, je pense, pour les personnes qui en ont laissé. On n'a pas réussi à tout faire parce qu'il y en a qui en avaient beaucoup. Mais merci beaucoup d'avoir été là. On va essayer de refaire ça de temps en temps. Puis je ne sais pas si David, Jonathan, il y avait des choses que vous vouliez ajouter.
Moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de voir qu'il y avait comme que tout le long, il y avait à peu près 20 personnes. Puis, tu sais, on ne l'avait pas annoncé, on ne l'a pas dit. Fait que je pense que si on l'annonce à l'avance, ça pourrait être vraiment intéressant de voir plus de gens se joindre à nous. Puis, tu sais, c'est toujours c'est plus facile. Moi, maintenant, quand je fais les questions-réponses, j'arrive juste pas à regarder le chat. C'est juste impossible parce que, à un moment donné. Mais là, ici, j'avais la chance de regarder, de lire un peu, de voir certaines personnes. Même que je reconnais, Guillaume Rousseau, il était là, si c'est le même Guillaume Rousseau, il était là hier, j'ai fait une question-réponse avec la Société Jung de Montréal, puis il était là, il y avait plusieurs d'ailleurs Québécois qui étaient là. Fait que c'est le fun de commencer aussi à connaître un peu les francophones qui s'intéressent au symbolisme, alors moi je suis très content.
Cool, ben merci tout le monde. L'organisation n'était pas facile. J'ai pas assez pris le temps d'essayer de faire des tests plutôt. Finalement, mon plan n'a pas marché. On a fait d'autres choses. Jonathan qui s'est débrouillé comme un magicien. Mais parce que la prochaine fois, on va mieux organiser.
Oui, on va trouver une meilleure façon de faire l'audio et la vidéo et tout. Mais là, on s'est un peu improvisé. Alors, merci David aussi d'être venu. C'était le fun que tu viennes.
Ouais, c'est un plaisir.
En plus, dernière minute, là, quand même, là, on s'était vu en fin de semaine. Puis je t'ai comme texté quelques jours plus tard. Là, ça serait bien que ça soit là. Merci d'avoir accepté.
Ouais, ça fait plaisir. Je peux être utile à tout ça. Toujours bon.
Alors, salut tout le monde. À la prochaine. Bonne journée. Bye bye.